Nous avons rencontré un problème technique lors de l'enregistrement de cet épisode qui fait que la qualité sonore n'est pas bonne sur certains passages. Nous vous prions d'accepter nos excuses et espérons que vous trouverez cet épisode intéressant. Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du CLUSIF, qui est une association qui œuvre dans le domaine de la cybersécurité. Et nous parlerons également d'un événement qu'elle organise, à savoir le panorama de la cybercriminalité. Et donc pour discuter de ce sujet, nous recevons Loïs Salmin,
bonjour,
qui est membre du CLUSIF, Henri Caudron,
bonjour,
qui est responsable de l'espace RSSI du CLUSIF, Loïc Guézo,
bonjour,
qui est membre du conseil d'administration du CLUSIF, Patrick Chambet,
bonjour,
qui est membre du CLUSIF.
Je suis animateur du CLUSIR PACA, territoire Côte d'Azur.
Éric Fraissinet.
Bonjour, et donc je participe depuis plusieurs années en tant que membre invité au panorama de la cybercriminalité à ce groupe de travail.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Donc Hervé, je te laisse te présenter par rapport
au CLUSIF. Alors moi, je suis membre du conseil d'administration du CLUSIF depuis de nombreuses années et je participe aussi au panorama de la cybercriminalité annuel depuis aussi de nombreuses années.
Et Garance Mathias, qui est membre du CLUSIF.
Bonjour, je suis avocat et membre du CLUSIF et j'ai le plaisir aussi de participer au panorama de la cybercriminalité.
Alors Henri, le CLUSIF, quelles sont ses particularités ?
Tout d'abord, le CLUSIF, c'est une association historique qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de la sécurité et des systèmes d'information. C'est une multitude d'activités, ce sont des groupes de travail thématiques qui ont pour objectif de fournir une contribution à l'écosystème cybersécurité par des publications qui sont mises à disposition de tous sur le site du CLUSIF. Ce sont aussi des conférences, un cycle de conférences annuelles avec des différentes thématiques, et en particulier aujourd'hui, ce dont nous allons parler, le panorama de la cybercriminalité qui existe déjà depuis plusieurs années. Autre lieu important pour le CLUSIF, l'espace RSSI. Ce sont plus de 100 RSSI ou FSSI, secteur public ou entreprise privée, qui se réunissent une fois par mois pour des retours d'expérience ou parler de l'actualité cybersécurité. Et contrairement à ce que l'on va voir dans le panorama de la cybercriminalité, le fait de n'avoir aucun offreur de solution, d'être entre responsables utilisateurs, nous avons la possibilité de parler d'incidents de sécurité non publics, ce qui ne sera pas le cas du panorama.
D'accord. Hervé, un petit peu d'historique sur le CLUSIF ?
Alors le CLUSIF est effectivement une association qui a fêté récemment ses 20 ou 30 ans, hein, puisqu'il y a eu deux vies dans le CLUSIF. Le CLUSIF, il est né il y a un peu plus de 30 ans au sein de l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance incendie et dommages. Et puis, 10 ans après, là, il a été véritablement créé en tant qu'association indépendante. Mais à l'origine, ce sont des assureurs qui assuraient les risques informatiques déjà à l'époque et qui ont provoqué la création du CLUSIF. C'est exactement comme l'assureur qui assure chez vous, il veut bien si vous avez mis une serrure. Et les assureurs qui assuraient l'informatique il y a plus de 30 ans, ils disaient oui, mais il faudrait quand même faire un petit peu de sécurité informatique, s'il vous plaît, messieurs. Et donc, c'est de là qu'est né le CLUSIF. Et donc, le CLUSIF a fêté ses 30 ou 20 ans, il y a 2 ans, je crois. Donc c'est une association très ancienne, et puis c'est la principale association en France en sécurité, dans le sens que c'est l'association qui réunit tout le monde, où tout le monde est le bienvenu, donc où il y a l'esprit d'échange le plus développé avec énormément de groupes de travail. Le panorama fait partie des deux événements avec MIPS, hein, qui est le menace informatique et pratique de sécurité, qui est une grande étude tous les 2 ans que mène le CLUSIF, avec un institut de sondage spécialisé. Le panorama, lui, qui est annuel, c'est un des deux grands événements de l'année organisés par le CLUSIF.
Alors, avant de parler du panorama, Patrick Chambet, CLUSIF, CLUSIR, quelle différence ?
Alors, les CLUSIR, donc R pour régional, c'est la déclinaison du CLUSIF en région, donc c'est des associations régionales. Donc moi, je fais partie du CLUSIR Provence-Alpes-Côte d'Azur, CLUSIR PACA, qui est lui-même subdivisé en 2 territoires, donc le territoire de Marseille-Aix et le territoire de Nice-Sofia, donc le territoire Côte d'Azur. Et je suis animateur de ce groupe, de ce territoire local.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter d'autres choses sur le CLUSIF avant de parler du panorama ?
Peut-être ce qu'on peut dire, c'est cette synergie entre CLUSIF et CLUSIR qui nous permet d'avoir une couverture géographique nationale Et le CLUSIF va même plus loin, puisque nous avons des partenariats avec d'autres associations au niveau international. Donc en fait, nous avons des liens avec le Luxembourg, l'Italie, des pays africains. C'est ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur les risques cyber au niveau mondial.
Loïc, tu voulais ajouter?
Non, je voulais compléter ce que disait Henri, mais il a exposé le fait. La volonté du CLUSIF d'avoir des interventions coordonnées avec des équivalents CLUSIF comme en Espagne, SMS Fora, ou le CLUSIT en Italie, ou d'autres pays émergents. Et on voit depuis un an, deux ans, beaucoup de propositions, de sollicitations qui arrivent de pays en voie de développement, notamment africains, le Sénégal, le Maroc, d'autres qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé des structures comparables au CLUSIF pour atteindre les mêmes objectifs de partage et d'échange autour des problématiques de cyber.
D'ailleurs, le panorama de la cybercriminalité a régulièrement des invités étrangers dans le cadre de sa préparation ou de sa délivrance. Il y a quelques années, on a eu des interventions à distance de collègues du Canada notamment et l'aide de collègues de Roumanie, c'était
pas ça ? Oui, hein ? Tout à fait.
Et par rapport aux CLUSIR, certains panoramas sont rejoués en région, notamment avec les CLUSIR. Un certain nombre d'entre nous vont commencer une petite tournée pour aller dialoguer sur le terrain, sensibiliser, discuter sur ces questions de cybercriminalité.
Alors justement, le panorama, qui est un événement organisé par le CLUSIF, quelles sont les particularités de cet événement ?
Alors l'idée du panorama, c'est d'essayer de regarder tous les événements qu'il y a eu pendant l'année et de faire le tri entre ce qui est significatif et ce qui l'est moins et présenter quelque chose de synthétique à l'ensemble de la communauté et notamment à la presse, hein, pour aider la presse à relever les événements véritablement importants pendant l'année. On utilise pour ça toute notre connaissance du sujet, mais par contre tout ce qui est commenté, présenté dans le cadre du panorama est fait sur source ouverte. Et donc, il y a une version des transparents sur le site web du CLUSIF qui inclut toutes les URL des articles originaux et des sources des informations qui sont citées. Pour ce panorama, on a des gens très différents qui participent à sa construction, ce qui permet de traiter d'absolument tous les sujets. On va même un peu au-delà de la cybercriminalité, puisqu'on traite des nouveautés dans le droit, on traite aussi de quelques accidents significatifs qu'il y a pu avoir dans l'année et qui ne sont pas à proprement parler de la cybercriminalité.
C'est aussi intéressant pour ceux qui y participent, puisque tout au long de l'année, on échange sur les événements, les incidents, l'actualité de la cybercriminalité. On en discute tout au long de l'année et c'est le process qui nous amène à présenter le panorama et la confrontation des points de vue sur les événements, ce qui nous permet de construire le panorama à la fin. Fait partie de la richesse en fait de ce projet.
Loïc, tu voulais ajouter quelque chose ?
En fait, je voulais souligner l'aspect innovant que peut prendre le panorama chaque année, puisque justement par cette approche de confrontation, on peut voir émerger des sujets qui sont effectivement peut-être un petit peu éloignés de la cybercriminalité, mais qui nous semblent au cœur des nouveautés et des activités de l'année qui vient de s'écouler ou de l'année qui va arriver. Par exemple, cette année, j'ai eu la chance de faire un sujet sur la cyberdiplomatie, qui effectivement est assez loin de la cybercriminalité en termes de malware ou d'effets, mais on voit bien que là, les aspects cyber au sens large sont intégrés dans ce sujet de diplomatie. Donc on a tenu collectivement à mettre en avant ce sujet comme un élément important et structurant du déroulé de l'année 2015.
Alors, qu'est-ce qui a marqué ? Quels sont les événements qui ont marqué cette année ?
Donc, en fait, les différents sujets, comme a dit Loïc, ont été décidés ensemble et on a essayé de sortir vraiment les sujets importants qui ont marqué 2015 et qui peuvent sûrement encore être présents en 2016. Donc, on a tout d'abord parlé des attaques astucieuses ou comment les cybercriminels nous surprennent. Ensuite, on a parlé vraiment de l'évolution des Zero Day, donc l'analyse de ces marchés noirs et des différents outils. Ensuite, donc, comme a dit Loïc, on a parlé de cyberdiplomatie, donc il y a un focus sur la Chine et les États-Unis, mais pas uniquement, pour voir que ça allait plus loin. Ensuite, c'est un sujet qu'on a malheureusement fortement vu cette année, c'était le djihad numérique, donc l'état des lieux, les enjeux opérationnels et juridiques. Ensuite, les objets connectés, ça s'est séparé en deux parties. On a eu donc 2015, vraiment l'année, on a vu avec Jeep, toutes ces choses-là, le piratage des voitures connectées. On a essayé de faire une perspective pour plus tard. On a aussi pensé au juridique qui est quand même qui est quand même très important. Voilà, donc il y a eu aussi deux parties plutôt techniques et plutôt juridiques. Ensuite, on a fait une partie sur nos téléphones mobiles, donc des sites de premier plan. Et enfin, on a fait les conséquences d'une attaque sur ce sujet. Donc on a ici différentes interventions comme le cyberpréfet qui a introduit,
qui a clôturé
l'intervention. Donc voilà, on a essayé de partager vraiment une vision complète de cette année. On a parlé par exemple d'Ashley Madison, on a parlé du Safe Harbor, on a à peu près parlé toutes ces choses-là. C'est un peu notre vision du groupe sur vraiment les sujets importants.
Et d'ailleurs, cette année, on n'a pas éludé beaucoup de sujets. Les années précédentes, on avait dû éliminer des sujets. Et là, dans l'approche qu'on a proposée cette année, je pense qu'on a couvert à peu près vraiment tout ce qui avait pu être discuté au cours de l'année.
Au début, c'était la santé, on n'avait pas beaucoup de la santé. Ouais. Après, on s'est dit que finalement, ce n'était pas si important, mais ce n'était pas aussi...
Pas si marquant en 2015.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sinon...
On a des règles assez précises, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des événements en 2016, on évite d'en parler, on y fait juste allusion, mais on ne s'étend pas dessus, on se concentre vraiment sur 2015. On peut revenir un petit peu sur les années précédentes parce qu'il y a toujours des répétitions de choses passées. Et on se concentre vraiment sur ce qui se passe entre le 1er janvier et le 31 décembre. On se concentre sur, on essaye d'illustrer les propos uniquement par des informations publiques et pas par des informations confidentielles.
Tous les liens sont publics justement sur la présentation.
Ouais, tous les liens sont publics. Il y avait une particularité cette année, donc nos collègues de l'OCL CETIC ont fait une présentation sur leur retour sur ce qu'ils ont vécu pendant les différents événements terroristes et la réponse qu'il a fallu apporter en matière de veille, de traitement des signalements en matière de contenu d'apologie du terrorisme et de la réponse qui a été apportée. Et ça nous a amené à cette présentation de 2h30 qui s'est clôturée par l'intervention du préfet Jean-Yves Latournerie. Qui est un peu une nouveauté en général, on n'a pas d'invité en plus. On se contente de présenter ce qui est discuté au cours de l'année. C'était l'occasion justement d'avoir le point de vue du ministère de l'Intérieur avec un peu plus de recul que les participants ne peuvent l'avoir.
Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à ce panorama, il faut préciser que la conférence est disponible sur le site du CLUSIF.
Pour les membres
uniquement.
Et sera mis à disposition de l'ensemble de la communauté en accès libre 6 mois après la conférence Panorama de la cybercriminalité.
Mais on était diffusé en direct pendant la conférence pour tous les internautes. On a eu une centaine ou 200.
Oui, c'est ça. Il y a eu une centaine de personnes qui sont restées jusqu'au bout.
Pendant les 2h30.
Ouais. Voilà. Et donc qui nous ont suivis par Internet. Alors il y a eu quand même une petite interruption en ligne. Puisqu'il y avait une présentation de nos amis de l'OCL CETIC qui malheureusement ne pouvait pas être diffusée en direct sur Internet puisqu'ils nous ont parlé des affaires en cours et des résultats très positifs de la police cette année, enfin l'année 2015.
Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses
sur le panorama? Sur le
panorama, bon, moi j'ai eu la chance de remplacer Loïs et moi j'ai beaucoup aimé sa présentation.
Merci,
qui montrait à quel point le marché des zéro-day était devenu un véritable marché institutionnel, avec des sociétés qui devenaient des grossistes en zéro-day pour faire l'intermédiation entre ceux qui trouvent des failles et ceux qui les achètent. Ceux qui les achètent étant très souvent des gouvernements, hein, bien entendu, et ceux qui les vendent, on découvre quand même qu'une faille sur iOS d'Apple peut monter jusqu'à $1 million. C'est quand même... Ça vaut le coup. Alors, bien entendu, si on trouve une faille dans des outils de commerce électronique entrée de gamme, bon, là, ça vaut beaucoup moins cher. On ne va pas gagner sa vie avec ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette industrialisation du commerce des zéro-day qui montre bien l'évolution de la société, peut-être pas dans le sens de celui qu'on aurait souhaité.
Il y a un deuxième point qui est quand même assez important, c'est surtout la partie américaine. On voit justement l'évolution aussi législative avec les arrangements de Wassenaar qui on voit l'intérêt de plus en plus grandissant pour les sociétés sur les zéro-day. On voit aussi l'intérêt simplement dans les levées de fonds qui sont effectuées en 2015. Les plus grosses plateformes de Bug Bounty en fait, ont levé déjà des millions d'euros en 2015. Donc les investisseurs croient vraiment sur ce type de plateforme Bug Bounty. Et voilà.
Il y a des plateformes qui se développent en France d'ailleurs.
Oui, donc il y a l'UDIRC.
D'ailleurs, moi, je ne peux pas m'empêcher de donner une anecdote. Hein. C'est que moi, j'ai vraiment eu un investisseur qui m'a sollicité pour me dire « Mais Monsieur Schoer, vous devriez réingénérer votre société comme une société de recherche de zéro day. Et si vous faites cela, je suis intéressé par investir dans votre société. » Donc, moi, il y a déjà plusieurs années, j'ai eu un investisseur français qui voulait que je devienne une société de recherche de zéro day. Et aujourd'hui, il y a des sociétés françaises qui ont bâti leur nouveau modèle économique sur la recherche de zéro day, hein, indépendamment de celles qui ont émigré à l'étranger. Et un autre sujet que moi j'ai trouvé très intéressant, il avait été traité par Jérôme, je crois, au Panorama, c'était quand même sur les véhicules, parce que ça a fait beaucoup le buzz dans l'année. Et les véhicules où on découvre que lorsque des chercheurs prennent le temps de décortiquer les logiciels et l'informatique embarqués dans un véhicule, eh bien finalement, peut-être que tous les fabricants n'avaient peut-être pas mené tous les audits et tous les tests de sécurité. Il y a eu beaucoup de présentations qui n'ont pas fait l'objet de communication publique, qui ont montré ça sur un grand nombre divers de fabricants. Alors, moi, j'étais d'autant plus étonné que nous, en France, on a quand même la chance d'avoir des fabricants qui font un gros travail sur le sujet. Mais ça, c'était quand même un des gros événements de l'année. Les véhicules sont interconnectés à Internet. Et ces véhicules, on découvre qu'il y a des interconnexions entre le système de navigation, le système de pilotage de la voiture elle-même et les systèmes de jeu et accessibles sur Internet, qui permettent aux passagers de voyager en confort. Et tout ça avec les interconnexions externes. Donc tous ces véhicules connectés, l'interconnexion avec tous ces objets, on voit bien qu'il y a un problème de manque de sécurité à la conception qu'il va falloir prendre en compte, y compris au niveau législatif.
Il y a des constructeurs qui le prennent en compte, hein, qui ont ouvert un bug bounty.
Tesla, justement, qui a ouvert un bug bounty. Hein.
Alors, moi, je reste prudent parce que, pour moi, un bon constructeur, c'est celui qui a fait un appel d'offres pour faire auditer, se faire accompagner dans la bonne conception et faire travailler des sociétés spécialisées. Dans certains cas, le bug bounty est aussi une manière d'obtenir une prestation à un prix inférieur à celui qu'elle vaut.
Ça se discute.
En faisant travailler des gens au bout du monde, ça se discute. Alors évidemment,
Tu élargis aussi le spectre des gens qui réfléchissent à la question.
Par contre,
C'est vrai que
c'est complémentaire.
Faire travailler plein de monde et tu payes effectivement que celui qui a réussi à trouver quelque chose, il y a un problème dans ce type
surtout
de modèle.
Surtout que c'est après, quoi. C'est pas by design, c'est à la fin concrètement. C'est j'ai sorti mon truc. Sur la problématique des voitures, on peut voir avec Tesla ou Jeep, etc. Si on a sorti les voitures, on ne veut pas.
Il faut les deux. Et je pense que l'audit, ça intervient au cours de la conception. Et après, il y a forcément des gens qui vont trouver des failles. Parce qu'il n'y a pas de système sûr à 100%.
Absolument.
Et donc, il faut y être ouvert. Il faut être ouvert à ce que des gens découvrent des choses et puis te les signalent.
Voilà. Donc, une fois qu'on a bien intégré la sécurité à la conception, en faisant appel à des sociétés spécialisées dans la sécurité embarquée.
Alors, ce sujet lié à l'Internet des objets, c'est un nouveau sujet au niveau du panorama de la cybercriminalité. Ça montre l'intérêt qu'ont les RSSI à venir à ce panorama, ce rendez-vous annuel. C'est ce qui nous permet d'avoir une actualisation, une mise à jour de nos connaissances en termes de risques cyber. Et chaque année, nous y trouvons quelque chose pour mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité dans nos différents environnements.
Ce qui était intéressant aussi dans le cadre du panorama, et dans le cadre aussi des objets connectés, pour avoir fait la présentation avec Jérôme. Donc Jérôme a fait une partie où il a présenté effectivement, parlé beaucoup des automobiles, avec la prise de contrôle à distance, une automobile aussi d'un point de vue technologique où il peut y avoir énormément de fuites, de piratage, mais aussi un des mots-clés de la présentation de Jérôme, ce qui m'a permis en tant qu'avocat de faire le lien, ça a été le mot-clé de responsabilité. Et en fait, effectivement, là on parle d'audit de sécurité, le mot-clé ça va être la sécurité, mais derrière tout ça, il y a aussi les données à caractère personnel, il y a comment on s'assure de la conformité, de la sécurisation de ces données à caractère personnel. Effectivement, un audit va être important, effectivement de mettre en place des mesures, on va dire, que ce soit logique ou physique, cela va être important, mais cela aussi, ça s'accompagne de contrats, ça s'accompagne de conditions d'utilisation, et ça s'accompagne aussi de sensibilisation des différents acteurs, que ce soit du constructeur qui va sensibiliser ses salariés, ses prestataires, en mettant en place des mesures et du respect de la protection des données, avec effectivement la sécurité qui est une notion clé, mais la sécurité aussi juridique. Et il y a aussi la sensibilisation des utilisateurs par une bonne prise en connaissance des conditions générales qui vont devoir être lisibles, accessibles, et non pas quelque chose en caractère 10 en japonais, pour prendre un exemple assez marquant, en anglais ou en allemand, enfin voilà, il n'y a pas que le japonais, effectivement, ou dans d'autres langues, mais vraiment accessible à tous, voilà, et à toutes. Après, autre chose aussi, c'est que ça nous a permis, dans le cadre de cette présentation Objets Connectés, de parler d'actions judiciaires. Alors, de parler aussi, puisqu'on a parlé des voitures, mais on a aussi parlé des jouets pour enfants, avec VTEC, qui, en fin d'année 2015, a eu une plainte du FC Que Choisir à la suite du piratage de données. De données qui concernaient notamment des données bancaires, des données des parents, mais aussi des données des mineurs. Et c'est vrai que les données des mineurs, des enfants, que ce soit des photos ou autres, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et souvent, les jeux, tout ce qui est destiné, on va dire, à un jeune public, est peut-être un peu moins sécurisé, ce qui est, encore une fois, un dommage, puisque là, on s'adresse à un public encore plus sensible, sur lequel, en plus, on peut avoir du piratage, sur lequel, en plus, les parents peuvent, encore une fois, utiliser, donc des failles de sécurité encore plus importantes. Donc, indépendamment de renforcer la sécurité, il y a aussi renforcer les contrats. Et on voit que les actions judiciaires sont là, en 2015 et certainement encore en 2016.
Les actions judiciaires, c'est une des conséquences des attaques.
Une des conséquences, oui.
Et on a évoqué les conséquences de différentes attaques qui ont eu lieu au cours de l'année ou dans les années précédentes et dont les conséquences ont été révélées plus tard. Donc, par exemple, dans le cadre de Target, qui a été victime d'une attaque voilà 2 ans maintenant contre son système de caisse enregistreuse, on craignait à l'époque que la société doive payer 3,6 milliards de dollars, je crois, de mémoire, de frais divers, notamment aux émetteurs de cartes. Et ils ont réussi à négocier les choses et on tombe globalement à un coût pour Target de 232 milliards de millions. Millions de dollars, dont une partie est prise en charge par les assurances, d'ailleurs, qu'on évoquait tout à l'heure, pour 90 millions d'entre eux. Donc, une grosse partie qui reste à la charge de l'entreprise, mais beaucoup moins que ce qu'on imaginait au départ. Et puis, un impact aussi sur le déploiement d'EMV, donc des cartes bancaires sécurisées avec une carte à puce, aux États-Unis, qui a été accéléré et donc qui, depuis le mois d'octobre, est effectivement en place. Pour y avoir été récemment, ce n'est pas encore complètement parfait, ils n'ont pas encore complètement acquis les habitudes, notamment les commerçants, mais ça commence à bien rentrer dans les usages. Il y a eu d'autres affaires qu'on a pu citer, OPM, donc la société qui gère notamment les données pour les habilitations de personnel, notamment pour le ministère de la Défense, et pour la CIA et d'autres acteurs. D'ailleurs, la CIA a dû retirer certains de ses personnels de pays sensibles. Et puis, on a cité...
Ashley Madison.
Non, oui. Ashley, c'est une affaire intéressante où cette boîte pour laquelle les auteurs des faits, en fait, a priori, souhaitaient la mettre en cause, dénoncer certaines de ses pratiques, elle s'en est plutôt bien tirée avec une image plutôt positive. Quand on grattait un petit peu dans ce qui était expliqué, ils avaient quand même de mauvaises pratiques par rapport aux données de leurs clients, par exemple, qu'ils n'effaçaient pas à la demande du client, qui est d'ailleurs un service payant.
C'est un service payant.
Oui, Ashley Madison est malheureusement un exemple assez négatif, puisqu'on voit qu'une entreprise qui ne respecte pas ses propres engagements, qui fait des malversations à la base, eh bien, lorsqu'il y a quelqu'un qui... essaye de le dénoncer, au final, ça joue sur la publicité de l'entreprise.
Ah oui, le dénoncer de façon illégale. Et ça, c'est peut-être une autre leçon des choses.
Oui, c'est peut-être parce que de façon légale, c'était difficile de le dénoncer.
Peut-être.
Pour ceux qui s'intéressent à Ashley Madison, je les invite à réécouter l'épisode No Limits Sécu sur Ashley Madison.
Exactement.
Ah oui, effectivement. Effectivement, on l'a évoqué. Alors, il y avait d'autres affaires, aidez-moi.
En fait, il y a aussi une chose qui est... Parce que là, on parle de budget financier, mais par exemple, l'exemple aussi des conséquences, c'est que concrètement, Target, le PDG, a dû démissionner.
Oui.
Voilà, il y a aussi un vrai...
C'est assez classique comme conséquence, notamment dans une société qui, a priori, avait mal organisé sa réponse en sécurité. C'est-à-dire qu'ils avaient bien coché les cases, ils avaient mis en place les certifications adéquates, mais ils n'avaient pas une gestion complètement intégrée à la sécurité. Et notamment, apparemment, d'après les comptes rendus qu'on a pu lire, n'avaient pas su réagir à l'incident parce qu'ils avaient été prévenus de l'incident par des systèmes qu'ils avaient mis en place et ils n'avaient pas su réagir. Donc, ils n'avaient pas mis toutes les structures en place. Ils avaient mis des outils, mais pas les équipes pour gérer les incidents, par exemple. Ensuite, il y a eu TV5 Monde, qui a été une affaire intéressante parmi celles qu'on a citées. Dans la présentation, on en a tiré... deux enseignements. Un, l'objectif et donc les conséquences attendues par les attaquants ici, c'était de détruire le système d'information. Et c'était une des premières fois que ça survenait en France contre une entreprise de ce type. C'est certainement arrivé à beaucoup d'entreprises dans le cadre des crypto-lockers. On cherche à détruire l'accès aux données. Là, c'était beaucoup plus massif. On cherchait à empêcher une télévision de fonctionner. Et ça aurait pu avoir un impact très grave. D'ailleurs, ces quelques heures de coupure de l'antenne, le PDG de la chaîne l'a expliqué, lui ont fait perdre quelques contrats, lui ont fait perdre des contrats publicitaires aussi, donc ça a eu un impact important. Le deuxième impact de l'affaire sur TV5 Monde, c'est que le PDG s'est beaucoup exprimé et a partagé son expérience.
C'est plus complexe qu'il y paraît, puisque TV5 Monde est quand même une entreprise qui avait été informée à plusieurs reprises. Je pense qu'un débat avec les intéressés serait à faire sur cette antenne.
Alors, c'est intéressant. Justement, Yves Bigot, le PDG de la société, il s'est beaucoup déplacé pour partager son expérience. C'est un professionnel des médias. Et justement, ça, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que c'était important qu'il aille partager. Et ce que tu dis, Hervé, est juste. Mais pour beaucoup de ces entreprises, Garance va encore m'en vouloir, un cabinet d'avocats.
Non, pas du tout.
Beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises ont un métier particulier. Leur métier, ce n'est pas la sécurité. Et pour beaucoup, elles ont du mal à intégrer quels sont les risques qui leur sont spécifiques. Elles ont parfois l'impression que les conseils qui leur sont donnés pour faire peur plutôt que de les aider. Et il faut qu'on arrive aussi à faire porter notre message. C'est tout l'intérêt justement de rebondir sur cet exemple-là, c'était de dire aux autres médias, vous voyez, attention, quand on vous parle de risques spécifiques à votre média, à votre type de fonctionnement, eh bien, il y a de bonnes raisons. Et en plus, le risque est réel, il y a des vrais attaquants, et ce n'est pas juste parce qu'on veut vous faire dépenser de l'argent sur la sécurité. Et en plus, ça crée de la valeur pour votre entreprise, ça c'est important, et tout le monde peut être victime de ça. Dans un autre cadre, je suis sur un projet sur les créateurs d'entreprises et la sensibilisation des créateurs d'entreprises, n'est-ce pas, Loïs ?
C'est un très bon projet, il sortira bientôt.
On en parlera.
On en parlera.
Et dans le cadre de ce projet, on a clairement identifié ce qui crée des entreprises, c'est loin d'être la priorité. Et quand tu es arrivé au bout de 15 ou 20 ans de la création d'une entreprise de médias, si tu n'as pas pris le problème en compte de la sécurité numérique dès le départ, ou dès le départ de chacun de tes projets industriels d'amélioration de ton système d'information, eh bien c'est impossible de revenir en arrière, ou alors ça te coûte très cher. La preuve, ça coûte très cher aujourd'hui à cette entreprise de revenir en arrière.
Mais je serai encore plus large que toi, Eric, c'est-à-dire que par rapport à la prise en compte de la sécurité, où effectivement le chef d'entreprise a tellement de choses à penser, d'autant plus qu'on est en création d'entreprise, ouais. Où là, il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses à intégrer, que ce soit d'un point de vue comptable, d'un point de vue juridique, d'un point de vue organisationnel, technique, autre, et tous les domaines, c'est qu'en même temps une bonne protection, que ce soit d'un point de vue juridique.
Là, on va au-delà du panorama, oui, de la cybercriminalité.
Oui, on va faire au-delà, mais le débat est intéressant. C'est qu'aussi, ça va permettre de valoriser, et cette protection de l'information, de la donnée ou autre, que ce soit avec des mesures de sécurité, ça va permettre aussi à l'entreprise de valoriser ses actifs.
C'est aussi pour ça qu'on fait le panorama, c'est pour donner des conseils.
et on a donné des... Alors, j'ai essayé d'apporter des conseils à la fin de cette présentation-là, notamment qu'il faut être conscient de ces risques, qu'il y a des risques nouveaux, des risques de, d'intention de destruction, c'est des risques nouveaux qu'on doit absolument prendre en compte, qui étaient un peu chimériques il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, se concrétisent.
Avec l'Allemagne aussi, qu'on a bien vu.
Oui, mais c'est récent. Ah, c'est des exemples récents et assez violents pour ces entreprises.
L'Ukraine aussi, qu'on a montré.
Ouais. Alors, l'Ukraine, récemment, il faut faire attention à l'Ukraine, mais... parce que c'est un truc qui m'a un peu gêné. Ou que...
bah, ça reste en cours.
Ça, c'est pas 2015. Pas. Voilà. Ce sera dans le panorama 2016.
Teasing, un peu de teasing.
Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments suffisants pour parler du cas de l'Ukraine. Nous analyserons ça et peut-être ce sera dans le panorama 2016.
Sûrement, Hervé. On va sûrement en parler. Mais tout le, c'est ce débat-là qu'on va avoir dans le cadre du groupe de travail du panorama.
Voilà. Nous aurons un long débat dans le groupe de travail.
Loïc, brièvement, la partie cyberdiplomatie.
La partie cyberdiplomatie, elle a montré que le Clusif s'intéressait à des sujets assez nouveaux, un petit peu parlé de la cybercriminalité, et avait une audience beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que j'ai rencontré tout à l'heure M. David Martineau,
oui, j'imagine,
qui m'a indiqué avoir eu des remontées de son service de com, comme quoi il avait été tweeté dans un panorama de son existence. Donc je l'ai chaleureusement invité à venir nous écouter l'année prochaine, voire peut-être à conclure une session comme l'a fait
bah, cette année. Peut-être qu'on l'interpelle sur le podcast pour l'inviter à venir discuter de ces sujets.
Je pense qu'effectivement, l'ambassadeur de la cyberdiplomatie, c'est un nouveau titre. Ouais. Ça mériterait une émission complète sur les objectifs, les missions de M. Martineau, de M. l'ambassadeur.
Notamment sur ces sujets cybersécurité dont il peut avoir traité dans les négociations internationales de la France.
L'appel est lancé. Merci Loïc. Pour conclure,
juste pour revenir sur l'incident TV5Monde, moi je verrais un autre côté positif, c'était la création du poste de RSSI et en lien avec cette dynamique, je dirais, c'est ce que nous voyons au niveau de l'espace RSSI, l'essor de ce groupe de travail qui contient aujourd'hui, qui regroupe plus d'une centaine de membres, cette dynamique très positive, elle vient notamment de la création de postes et c'est bien la prise en compte par toutes ces organisations du risque cyber et de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection.
Le futur RSSI de TV5Monde est le bienvenu dans l'espace RSSI du Clusif.
Je précise que le cas de TV5Monde a eu des répercussions dans les autres médias et je peux vous dire pour avoir des infos que toutes les autres chaînes de télé ont été mises vraiment en alerte suite à ça. Et que donc tous les médias ont fait des efforts pour se sécuriser. C'est aussi un point positif.
Alors, j'ai une source sûre.
Il y a beaucoup de médias qui avaient d'ores et déjà fait des efforts depuis très longtemps. Il y en a certains qui sont soumis à certaines législations. Donc,
mais je le confirme, au niveau de l'espace RSSI, après l'incident TV5Monde, nous avons eu un retour d'expérience d'un RSSI dans le domaine des médias qui nous a confirmé les mesures qui vont être mises en place dans son environnement. Grâce à cette sensibilisation au risque via l'affaire TV5Monde.
J'ai eu des échanges avec des RSSI du Cameroun concrètement qui s'occupent de ça et qui m'ont concrètement dit que l'affaire TV5Monde avait remonté jusque, qui avait amené à faire des audits, à prendre en compte la sécurité pour leur propre télévision nationale. Donc voilà, peut-on remercier les pirates ? Je ne sais pas. Mais...
Jamais, mais par contre, il faut toujours tirer les conséquences de tous ces incidents et j'espère qu'on contribue à cet éveil.
Ouais. Amélioration continue.
Bon, bien, chers auditeurs, on vous invite à suivre le futur panorama de la cybercriminalité.
À la mi-janvier 2017.
Donc, est-ce que les internautes peuvent s'y rendre également ? Quelles sont les possibilités ?
Sur le site du Clusif, il y a toutes les informations. À quelques semaines de l'événement, la veille de l'événement, ça sera annoncé...
Ce sera l'occasion pour les auditeurs de découvrir dans quelques semaines le nouveau site du Clusif qui va donner encore plus de possibilités dans l'esprit d'échange du Clusif.
Donc tu peux rappeler l'URL ?
Clusif.fr.
C-L-U-S-I-F.
Et puis tu peux même regarder bientôt le Clusif 2015, le panorama 2015, pour pouvoir voir ces merveilleuses interventions.
De... Nos membres.
Non, mais après, dans 6 mois.
Voilà. Et 6 mois. Vous pourrez voir la vidéo. Mais il y a d'ores et déjà les transparents qui sont accessibles.
Ouais. Et une synthèse pour ceux qui n'ont pas pu y assister.
Et une synthèse.
C'est bien fait quand même.
Bon, et bien on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Bye bye.